C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional.
Les villages s'appellent Sauternes, Saint-Estèphe ou Saint-Émilion. Les pierres sont belles et la lumière est bonne entre les vignes et la braconne. Toute une enfance à l'ombre de la maison de mon grand-père. J'étais si jeune et je regardais la Garonne.
Bonjour à tous. Je dois ce récit à un article publié par Histoire Vraie en Midi-Pyrénées, ainsi qu'à de nombreux reportages de presse de l'époque, c'est-à-dire 1875. Nous allons parler aujourd'hui de la crue de 1875 à Toulouse et sa région, il y a 140 ans. Les premiers jours de juin 1875, des importantes précipitations neigeuses s'abattent sur les versants des Pyrénées centrales. Celles-ci, déjà bien garnies par une couche de neige importante, tombée en hiver. À ces chutes inhabituelles, pour une fin de printemps, succèdent des températures d'une douceur exceptionnelle en altitude. Un vent du sud brûlant hâte la fonte. Le manteau neigeux devient instable et décroche. Des avalanches, des plaques de coulée obstruent le fond des vallées et emportent aussi le bétail. L'hiver, en plein mois de juin. En plaine et sur le piémont pyrénéen, il pleut sans discontinuer depuis la fin mai. Rivières, gaves, torrents grossissent et débordent. L'été 1875 survient sous un ciel couvert depuis 3 semaines, sous forme d'une pluie incessante. La terre du sud-ouest ne peut éponger de telles précipitations. Au matin du 23 juin, une vague énorme fait irruption dans la plaine de la Garonne. En amont de Toulouse, grossie par la rivière Ariège et tous ses affluents en furie, le fleuve atteint, puis dépasse sa côte d'alerte. À Carbone, elle est à 4,50 m au-dessus de la côte d'alerte. De la rive droite de Toulouse, surélevée, des quais de la Dorade, qu'on appelait à l'époque le quai Montbel, et quai de Toulouse, la population toulousaine se presse pour assister à un spectacle de la Garonne qui enfle, couleur café au lait. L'eau est entrée. Elle est entrée sans rencontrer d'obstacles au sud de la ville, à Croix-de-Pierre, par la route d'Espagne et l'avenue de Muret. Elle déferle désormais sur le faubourg Saint-Cyprien. Un immense lac boueux s'étend déjà du Pont Neuf jusqu'à Castellardy, l'Ardenne et au-delà. Dans l'après-midi de ce mercredi 23 juin, la Garonne atteint sa côte historique, plus de 10 mètres au-dessus du zéro de l'échelle, soit 2,50 mètres au-dessus du niveau record de la crue de 1855, déjà la plus forte qui avait été enregistrée. Le courant charrie sans interruption des animaux noyés, pattant l'air, ventre gonflé, des débris de toutes sortes, des fragments de ponts ou de maisons, des palissades, des meubles, barriques, arbres arrachés avec leur feuillage, et les racines à nu, madriers heurtant le parapet du Pont Neuf, les ponts suspendus de Saint-Pierre et Saint-Michel ont déjà été emportés dans d'énormes fracas, l'un à 13 heures l'autre à 18h. On improvise des digues. Les lavoirs, stationnés sur le quai, se disloquent sous les assauts bouillonnants. Plus grave, le moulin du Bazacle et les usines des amidonniers sont durement touchés. Que vont devenir les 4000 ouvriers qui s'activent dans les ateliers chaque jour? Les papeteries, miroiteries, tréfileries, forges, fonderies, fabriques de chapeaux, de limes, de faux. D'ailleurs, une épaisse fumée s'élève même du laminoir du Bazacle, qu'un incendie dévore. La rumeur affirme que la vapeur d'eau, qui a envahi les chaudières et les fours brûlants, menace de tout faire sauter. La nuit arrive rapidement, augmentant l'angoisse des Toulousains. L'obscurité rend impuissant.
Comme la Garonne qui roule et sonne, comme un accent, j'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur, de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et s'abandonne, j'ai toujours su que je l'aurais cet amour. Comme la Garonne qui roule et sonne, comme un accent, j'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur et de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et qui rayonne, j'ai toujours su que je l'aurais cet amour. Comme la Garonne roule et sonne, tourbillonne, s'abandonne et rayonne, je savais, je l'aurais cet amour.
Le quartier Saint-Cyprien, de la rive gauche, se débat rapidement sous un flot de 3 à 4 mètres. Une à une, les habitations dont la fondation sont minées s'effondrent. Les toits de celles qui restent debout servent de refuge à des familles, des voisins paniqués. Parfois, elles s'affaissent à leur tour, entraînant les occupants dans leur chute. On entend les appels de détresse. La crue envahit l'Hôtel Dieu. Et pour sauvegarder l'édifice, on pratique à de grandes ouvertures à la masse. De gros flots s'échappent alors par l'arrière rue Viguerie, qui ressemble à un canal. L'inondation parvient même jusqu'au quartier Saint-Michel. Ses habitants, qui se croyaient jusque-là à l'abri, déménagent en haute hâte. De mêmes scènes se reproduisent rue de la Dalbade et des Couteliers. Des témoins voient passer le bateau dragueur, d'ordinaire en station au pont Saint-Pierre. À minuit, il pleut toujours à torrents. La Garonne continue de croître. Au milieu de tant de dévastations et de drames, un journaliste décrit sa tristesse dans l'écho de la province, ainsi aussi que dans la dépêche du Midi. À Saint-Cyprien, 7 membres d'une même famille sont pris au piège. Personne ne pourra les sauver. L'aube, tant espérée, se devine vers 5h du matin. La pluie ne tombe plus que par intervalles. Le niveau de la Garonne semble marquer le pas. Puis, aux premières lueurs matinales, les sauvetages s'organisent. Les fourgons de l'artillerie déversent en ville, au sec, des victimes choquées, exténuées, presque nues, grelottant de froid. On parle de maisons effondrées par centaines, de 25 000 personnes sans feu ni lieu, privées de leurs biens, réduites au seul secours de la bienfaisance ou de la charité publique. Les eaux se retirent petit à petit. On constate les dégâts à déblayer les décombres, tenter de sauver ce qui peut l'être. De pauvres gens se lamentent. Plus de 200 personnes ont péri. Il y a aussi les fonderies Bourges et Messonnier, les maisons Lamouroux, le café Fréchou, le bal du Grand Orient, la maison Estrade du droguiste, l'ancien hôtel Massabio, tous rayés de la carte. Une centaine de cadavres repêchés, attendent leur identité à l'hospice. Partout, une couche de vase macule les façades et les rues. L'air est saturé de l'odeur des cadavres. Au cimetière de Terre-Cabade, on photographie les dépouilles, non identifiées, afin de leur trouver un nom. Le 26 juin, à 2h37 du matin, le président de la République, Patrice McMahon, arrive en gare Matabiau. Le chef de l'État rend visite aux sinistrés de Toulouse et de la plaine de la Garonne, dont le sort émeut le pays entier. Mais le président arrive en convoi spécial depuis Cap-de-Nac, car ailleurs, les voies ferrées sont impraticables ou arrachées. Si Toulouse est particulièrement touchée, les communes limitrophes du fleuve connaissent le même sort. Fenouillet, Grenade, Onde, Gagnac, mais aussi en Tarn-et-Garonne, à Montauban, Moissac, Golfech, Agen et la Magistère. À Castelnaudary, 2000 hectares sont la proie du fleuve, soit le tiers de la commune. Partout, les ravages de la crue historique sont considérables. Terres et maisons inondées, récoltes perdues, milliers de têtes de bétail noyées, ponts, usines, routes et équipements publics détruits.
Comme la Garonne où les sales tourbillonnent, s'abandonne le Yonne, je savais, je l'aurais, cet amour.
McMahon, le vainqueur de Sébastopol et de Magenta, lors de la campagne d'Italie, réconforte les habitants qui viennent à sa rencontre, promet aide et secours matériel. Il se fait acclamer. À cette occasion, on attribue à ce maréchal de France la fameuse triade restée dans le langage courant « que d'eau », suivie de « et encore, on n'en voit que le dessus ». Ces propos ne peuvent avoir été tenus à Toulouse, car la crue s'est retirée aussi vite qu'elle est venue. Une souscription nationale est lancée. L'argent et les aides affluent de tous les pays, y compris de l'Alsace-Lorraine et de l'étranger, pour reconstruire la ville et venir en aide aux sinistrés. 16 à 7 millions de francs de l'époque sont recueillis. À Londres, une représentation théâtrale est organisée au bénéfice des inondés du Midi de la France. Les journaux américains, britanniques, suisses, belges, russes ouvrent également des souscriptions. Le conseil municipal de Toulouse, à l'unanimité au premier, accorde un secours de 100 000 francs, suivi de Paris avec son aide d'urgence de 200 000 francs. Pour les autorités, l'autre priorité, après la reconstruction, est de se prémunir des colères du fleuve, dont le débit dépend en grande partie des précipitations tombées sur la chaîne pyrénéenne. La Garonne a déjà frappé à Toulouse en 1727, où sa montée souveraine avait fait 52 victimes. 1770 également, où elle a provoqué presque autant de victimes. Celle de 1875, avec 208 morts, bat tous les records. Là, une plaque et une marque évoquent jusqu'où le flot dévastateur a grimpé, à plus de 3 mètres de hauteur par rapport au plancher des vaches. Place Olivier. Les digues en béton d'Ampalo de l'avenue de Muret, de Casselardier et des Abidonniers vont être construites en 1960. Celles de Ginestoux en 1980 et de Blagnac en 2005. Combinées à l'anomalie météorologique de mai et juin 1875, la vraie cause de la catastrophe est désormais connue. Le défrichement anarchique des montagnes pour la production de bois d'œuvre et de chauffage dans les vallées pyrénéennes, alors surpeuplées. Aujourd'hui, en pleine expansion, les forêts du massif jouent, comme jadis, leur rôle d'éponge naturelle sur les versants pentus, afin de retenir le trop-plein de précipitations. De même que les grands barrages hydroélectriques construits après la Seconde Guerre mondiale, en amont, Caserre et Carbone. Mais qui peut aujourd'hui assurer sans risque que l'histoire ne se renouvellera pas?
Si la Garonne, elle avait voulu l'endurlu, lorsqu'elle sortit de sa
source. Diriger autrement sa course vers le midi s'est penché. Qui donc eût pu l'en empêcher? Tranchant pleine, vallon, montagne, si la Garonne elle avait voulu, si la Garonne elle avait voulu, si la Garonne elle avait voulu, elle allait arroser l'Espagne. Si la Garonne elle avait voulu, l'enturlu dirait au nord sa marche errante, elle aurait pu couper la Charente, couper la Loire au bord fleuri, couper la Seine dedans Paris. Moitié verte, moitié blanche, si la Garonne elle avait voulu, si la Garonne elle avait voulu, elle allait se jeter dans la Manche. Si la Garonne elle avait voulu, l'Anturlu, elle aurait pu boire la zone par le Rhin après le Rhône, et là se dirigeant vers l'Est, absorber le Danube. Peste et poivre à force de boire, si la Garonne avait voulu, si la Garonne elle avait voulu, si la Garonne elle avait voulu, elle aurait grossi la mer Noire. Si la Garonne elle avait voulu, l'Anturlu, elle aurait pu dans sa furie pénétrer jusqu'en Sibérie, passer l'Oural et la Volga, traverser tout le Kamtchatka et d'Atlas déchargeant l'épaule. Si la Garonne elle avait voulu, si la Garonne elle avait voulu, si la Garonne elle avait voulu, elle aurait dégelé le pôle. Mais la Garonne elle a pas voulu, l'Anturlu, humilier les autres fleuves, seulement pour faire ses preuves, elle arrondit son petit lot, ayant pris le Tarn et le Lot, elle confisqua la Dordogne. La Garonne, elle a pas voulu, la Garonne, elle a pas voulu, la Garonne, elle a pas voulu, quitter le pays de Gascogne.
Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.